Nous allons aujourd'hui poursuivre notre étude du livre de 1 Samuel. Alors aujourd'hui, on va regarder deux choses. On va regarder un résumé du contenu des principales sections du livre de 1 Samuel, ainsi que les principales leçons spirituelles qu'il contient. Alors on va débuter par le résumé du contenu des principales sections. Alors, dans son livre qui s'appelle Survol de l'Ancien Testament, volume 2, dans les éditions Europresse, l'auteur et pasteur Garrett Crossley nous parle de trois divisions du livre de 1 Samuel. La première, c'est vraiment Samuel, le prophète, qui va du verset 1, chapitre 1, jusqu'au verset 17 du chapitre 7. Alors, le livre des Juges s'achève sur cette remarque désabusée de l'époque. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. On avait cette remarque-là au verset 25 du 21e chapitre du livre des Juges. Alors, les premiers chapitres de 1 Samuel brossent un tableau de la vie en Israël sous les deux derniers juges, soit Élie et Samuel. Élie remplissait principalement la fonction officielle de sacrificateur, et Samuel, surtout celle de prophète. Mais tous deux exercèrent un rôle national qui dépassait de loin leurs attributions religieuses. Élie fut juge en Israël pendant 40 ans, comme on voit dans le verset 18 du chapitre 4. Et Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie, comme on peut le lire au verset 15 du chapitre 7. Samuel est un enfant donné par Dieu en réponse aux prières persévérantes d'une femme stérile. À sa naissance, sa mère le consacre logiquement au Seigneur et au bout de quelques années, elle le confie aux soins du sacrificateur Élie. Étant de la tribu de Lévi par naissance, Samuel est légitimement habilité à exercer le sacerdoce. Ophni et Phinée, qui sont les deux fils d'Élie, se conduisent très mal. Comme leur père les reprend mais ne les réprime pas, Dieu le censure. Samuel est appelé à exercer l'office de prophète, alors qu'il n'est encore qu'un jeune garçon. Son premier devoir est de révéler à Élie le jugement de Dieu. L'Éternel est avec Samuel si bien qu'en peu de temps, tout le pays sait que Samuel était établi prophète de l'Éternel. On peut lire cette affirmation-là au verset 20 du chapitre 3. Donc c'est le début d'une nouvelle période dans l'histoire du royaume de Dieu. Les Philistins occupent encore des parties d'Israël. Chaque année, plus fort l'ennemi constitue une menace sérieuse pour Israël. Lors de la première bataille, les Israélites décident d'emmener l'Arche de l'Alliance avec eux, comme si sa présence suffisait à elle seule à leur assurer la victoire. Les Philistins triomphent et s'emparent de l'arche. Ophni et Phinée, les fils d'Élie, sont tués au combat, ainsi que 30 000 soldats d'Israël. À la nouvelle de la mort de ses deux fils et de la capture de l'arche, Élie tombe de son siège et se brise la nuque. Après cette mort triste, la responsabilité de juge en Israël incombe à Samuel. Il fut le dernier des juges, mais pas un chef militaire. Il ne s'impose pas par la force musculaire, comme Samson, mais par ses qualités spirituelles et sa vie de prière. Il combat moins la chair et le sang que les dominations et les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. De ce point de vue, sa fonction de juge se confond avec celle de prophète. Dans un sens très réel, il est le premier des prophètes, car avant lui, l'office prophétique se résumait à une illumination ponctuelle. Avec lui, il devient une lumière plus constante et plus systématique. Il est probable que Samuel fonde l'école de prophètes mentionnée dans son livre. Alors, l'Arche de l'Alliance, dont les Philistins se sont emparés, est source de nombreux ennuis pour des milieux d'entre eux, si bien qu'en fin de compte, il la renvoie en Israël. Samuel saisit cette occasion pour appeler le peuple à la repentance et à la prière. Israël répond, confesse ses péchés et remporte sur les Philistins une grande victoire dont les effets dureront tout le temps de la direction de Samuel. Alors ça, c'était la première section qu'on avait parlé. La deuxième section, c'est vraiment celle qui décrit Saül comme étant le premier roi. Et cette section-là va du verset 1 du chapitre 8 jusqu'au verset 35 du chapitre 15. Alors, parvenu au soir de la vie, Samuel désigne ses deux fils comme ses successeurs à l'office de juge, mais ils sont débauchés et malhonnêtes. Le peuple demande avec insistance à Samuel de lui donner un roi pour le juger, comme il y en a chez toutes les nations. Pour établir la monarchie, l'Éternel choisit Saül comme premier roi d'Israël, un homme travailleur, généreux, honnête et modeste. Saül justifie rapidement le bien fondé de sa désignation comme roi d'Israël. Il rallie le peuple à sa cause et remporte des victoires décisives sur ses ennemis. Mais les Philistins se rassemblent à Michmash pour combattre Israël qu'ils surpassent en nombre. Les soldats de Saül prennent peur et commencent à déserter leur rang. Après avoir attendu le prophète Samuel pendant 7 jours, Saül outrepasse délibérément son pouvoir et, en flagrante contradiction avec la loi divine, offre un holocauste à l'Éternel. À peine ont-ils terminé que Samuel arrive. Ce que Saül a fait en offrant ce sacrifice est si grave qu'il perd la pérennité de son trône. Il fait preuve d'un manque évident de foi en Dieu et a désobéi à sa parole. Lui-même n'est pas totalement rejeté, mais sa descendance n'héritera pas la royauté. Même avec seulement 600 hommes, Saül aurait pu remporter une victoire éclatante s'il s'était fié au Seigneur et avait obéi à ses commandements. Saül est le roi selon le cœur d'Israël. Il offre des sacrifices, mais incorrectement. Il combat résolument les ennemis d'Israël, mais ne recherche pas la bénédiction divine avant de se mettre en campagne. Il fait confiance à l'Éternel jusqu'au moment où il voit les hommes l'abandonner. Il croit à l'efficacité des formes extérieures du sacrifice sans avoir la foi, l'amour et l'obéissance du cœur. Il reflète ainsi la nature d'Israël à cette époque. En réaction à son attitude, Samuel lui annonce que le trône passera héréditairement à un homme selon le cœur de Dieu. On voit cette expression-là, selon le cœur de Dieu, dans le verset 14 du chapitre 13. Jonathan, qui est le fils de Saül, se révèle d'un tempérament différent de celui qui finit par caractériser son père. Cet homme avait toutes les compétences pour monter sur le trône s'il y avait été appelé. La Bible ne présente personne qui soit d'une nature aussi désintéressée, chaleureuse, authentique et noble que Jonathan. C'est un homme de foi et de courage. C'est aussi un homme d'action. Ses paroles au jeune homme qui porte ses armes témoignent de sa confiance en l'Éternel. « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » On lit cette phrase-là dans le verset 6 du chapitre 14. Alors, une nouvelle désobéissance de Saül dans l'épisode d'Agag. On a cette description-là dans le verset 9 du chapitre 15. Amène Dieu à le rejeter. La seule excuse que le roi déchu est d'avoir craint le peuple et écouté sa voix. Alors, la troisième partie du livre de Samuel, c'est vraiment celle où on parle de David, le plus grand roi d'Israël, qui va du verset 1 du chapitre 16 jusqu'à la fin, jusqu'à 31-13. Alors, après le rejet du roi Saül, l'Éternel demande au prophète Samuel de se rendre à Bethléem pour choisir un de ses fils, un des fils d'Isaïe, comme successeur sur le trône. Il oint d'huile David et l'Esprit de Dieu repose sur celui-ci à partir de ce jour. Chapitre 16, verset 13. Il ne sera cependant pas présenté à Israël avant un certain temps, si bien qu'il s'en retourne vaquer à ses occupations au milieu de ses frères. Entre-temps, l'Esprit de Dieu, qui revêt de force et de puissance et confère une saine intelligence, a quitté Saül. Dans la providence divine, c'est par ce moyen que David est introduit à la cour royale. Le jeune berger est un habile musicien. On fait appel à lui pour jouer de la harpe et pour soulager Saül chaque fois que le mauvais esprit venant de Dieu se manifestait. Alors, David retourne périodiquement chez lui pour se reposer et se ressourcer dans la paisible solitude des environs de Bethléem, jusqu'au jour où il relève le défi de Goliath. Avec un courage qu'inspire sa foi vivante, David s'élance vers le géant, et il lui dit, au verset 45 du chapitre 17, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi, au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. » David tue le géant, Les Israélites reprennent courage. Les Philistins sont consternés. Israël se lève et remporte une victoire éclatante. De ce jour, un lien très fort unit David à Jonathan, le fils de Saül. Une amitié pure et à l'honneur de Dieu se forge entre ces deux hommes pieux qui se vouent un respect et un amour mutuel. Le roi Saül confie le commandement de son armée à David. La popularité et le succès de ce jeune officier sont telles que les femmes chantent au verset 7 du chapitre 18, « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Dans un excès de jalousie, Saül tente à deux reprises de tuer David. Suite à ses échecs, il conclut que le Seigneur qui s'est retiré de lui est désormais avec David. Il utilise plusieurs stratagèmes pour se débarrasser de son rival. David fait des adieux émouvants et pénibles à son grand ami, puis, persécuté et chassé, se lance dans une vie d'errance. Il se réfugie dans la grotte d'Adullam. Son existence solitaire dans ce lieu a des effets bénéfiques pour développer sa vie de prière et de dépendance totale au Seigneur. C'est dans cette grotte qu'il compose les psaumes 57 et 142, dans lesquels il témoigne de sa confiance à l'Éternel. David a des occasions d'ôter la vie à Saül, mais il refuse de porter la main sur loin de l'Éternel. Il est même fortement ébranlé d'avoir simplement coupé le pan de son manteau. Il tente de convaincre le roi qu'il n'a rien à craindre de lui. Saül lui répond qu'il apprécie grandement son attitude et confesse sa folie. Malgré toutes les déclarations d'intention de Saül, David reste persuadé que le roi n'aura de cesse de le poursuivre et de l'éliminer. Il néglige malheureusement de consulter le Seigneur et de dépendre entièrement de lui. Il décide de quitter le territoire d'Israël pour chercher refuge chez les Philistins. Quelque temps après, une guerre éclate entre les Philistins et les Israélites. Les deux armées se font face. Le roi Saül, craignant l'issue du combat, consulte l'Éternel. Mais l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Dans son désespoir, Saül transgresse la loi de l'Alliance contenue dans la parole révélée de Dieu et s'adresse à une médium, à Andor. La femme découvre sa perfidie quand il lui demande de faire monter Samuel, dont il souhaite connaître la vie, et à qui il a l'intention de demander conseil. Saül reçoit confirmation de son rejet par Dieu et apprend que lui et ses fils mourront prochainement au combat. Au moment d'engager les hostilités avec les Israélites, les Philistins font le point sur leur propre force. Apercevant David et ses hommes à l'arrière de leur armée, ils sont scandalisés à l'idée que des Israélites puissent combattre d'autres Israélites. Les chefs philistins font preuve d'une grande méfiance, bien compréhensible à l'égard de David et exige que les Hébreux soient exclus de leur rang. La réaction de David montre à quel point son niveau spirituel était bas à ce moment-là. En effet, il s'en prend à Achish qui refuse son alliance et ne lui permet pas de combattre les ennemis de Monseigneur le roi, comme on peut le lire au verset 8 du chapitre 29. Alors, rentrant chez lui à Tsilag, dans le pays des Philistins, David et ses hommes découvrent que les Amalécites ont pillé et incendié la ville et amené leurs femmes et leurs enfants captifs. Cet événement tragique amène David à fléchir les genoux. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu, comme on peut le lire dans le verset 6 du chapitre 30. David se sentit certainement coupable d'avoir adopté cette attitude en tant que chef. Pour camoufler sa tromperie, ses mensonges, il mettait à mort hommes et femmes dans ses incursions contre les Amalécites. Ce ne fut donc certainement pas grâce à lui que les Amalécites laissèrent la vie sauve aux habitants de Tsilag. Le Seigneur était intervenu pour protéger les femmes et les enfants. La culpabilité devient condamnation, la condamnation se transforme en confession et David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Entre-temps, les Philistins remportent une victoire décisive sur Israël et se lancent à la poursuite de Saül et de ses fils. Jonathan, Abinadab et Malchishua sont tués et leur père grièvement blessé. Il préfère se donner la mort en se jetant sur son épée pour ne pas subir les outrages des Philistins. Alors, ce qu'on va faire, on va arrêter là aujourd'hui. Et dans notre prochaine leçon, on va regarder l'autre sujet qu'on avait dit qu'on développerait dans cette leçon-là, qui sont les principales leçons spirituelles du livre de 1 Samuel. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.